Je me suis intéressé à la façon dont l'enseignant transmet l'énoncé et à essayer de voir si la façon dont on transmet l'énoncé peut avoir une influence sur la façon dont les élèves résolvent le problème. Donc je me suis intéressé à trois modalités. La première, je m'y suis intéressé surtout dans mon travail préalable d'études et de recherche, c'est la modalité que j'appelle traditionnelle de l'école maternelle. C'est l'enseignant qui raconte son énoncé en manipulant du matériel devant les élèves. Et puis après, dans mon travail de mémoire, je me suis intéressé à deux autres modalités. Celle où l'enseignant raconte un énoncé, mais sans aucun support matériel. Et celle où l'enseignant lit un énoncé sans aucun support matériel. Pour transmettre l'énoncé, on peut être en langage oral, on peut le raconter, ou on peut être en langage écrit. La question de recherche, est-ce que ça change quelque chose? Et si ça change quelque chose, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd avec chacune de ces modalités? Je vais d'abord définir, vous expliquer la définition que j'ai prise sur ce qu'est résoudre un problème. Je me suis appuyé sur les travaux de Jean Julot. Jean Julot, il dit qu'être capable de résoudre un problème, c'est être capable de se le représenter. Et pour ça, il faut mettre en œuvre trois processus. Le premier processus, c'est l'interprétation et la sélection des données. C'est-à-dire qu'il faut être capable de prélever dans ce qu'on m'a donné, dans l'énoncé, quelle que soit sa forme, d'être capable de prélever tout ce qui va m'être utile pour résoudre le problème. Donc forcément, on pense aux données numériques, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des éléments dans le texte qui vont nous permettre de structurer des choses. Par exemple, d'identifier un verbe d'action qui va nous laisser penser qu'il y a une action de transformation. Ou d'identifier une chronologie dans le problème. Voilà, tous ces indices-là vont être importants pour pouvoir résoudre le problème. Donc sélection et interprétation. Le deuxième processus qu'il faudra mettre en œuvre, c'est le processus de structuration. C'est-à-dire qu'à partir de ces données, il va falloir que j'arrive, d'une manière ou d'une autre, à réunir ces données en un tout cohérent qui va permettre de lier tout ça. Alors ça, c'est une question qui arrive souvent en constellation, parce qu'il voit beaucoup de représentations des élèves. Comment on sait qu'une structuration, elle est efficace ou qu'elle n'est pas efficace? Une structuration efficace, un indice très net, c'est que dans cette structuration, on doit pouvoir voir tout ce qu'on sait, mais on doit voir apparaître dans la structuration aussi ce qu'on cherche. Si on arrive en un tout, que ce soit une opération, un schéma, n'importe quoi, si on arrive à voir apparaître en une même chose ce qu'on cherche et ce qu'on sait, il y a des chances qu'on ait une structuration qui a des chances de marcher. Et puis le dernier processus qu'il faut mettre en œuvre, c'est le processus d'opérationnalisation, c'est-à-dire le passage à l'action en mobilisant des techniques opératoires ou autres. Donc Jean Julot, il les explique dans cet ordre-là, mais il nous met en garde aussi tout de suite. Il nous dit que ça n'arrive pas forcément de façon linéaire. Ça arrive même très rarement de façon très linéaire comme ça. Quelquefois, on commence à se saisir de quelques données. Ça commence toujours par l'interprétation et la sélection. Mais à partir de quelques données, quelquefois, on peut essayer de commencer à structurer les choses. Puis finalement, en structurant, on se rend compte qu'il nous manque quelque chose. Donc on retourne à l'interprétation et à la sélection. Vous voyez, il y a des allers-retours qui vont se faire. Et on le verra très bien dans l'activité des élèves. Et pareil, une fois qu'on a conduit le processus d'opérationnalisation, la tâche n'est pas encore finie parce qu'il faut reconfronter ce résultat qu'on a trouvé à l'énoncé du problème. C'est-à-dire qu'on va retourner à la sélection et l'interprétation de données pour voir si notre résultat, il correspond bien à cette interprétation. Alors maintenant, quelques constats avant de démarrer sur ce qui m'a conduit à ce travail de recherche. Le premier constat, on le trouve beaucoup dans la littérature. Là, j'ai juste cité un article, mais on le retrouve énormément. Et en général, quand on en parle avec des collègues enseignants, c'est un constat presque qui va de soi pour eux. Ce constat, c'est qu'en résolution de problèmes, ce qui pose problème, ce n'est pas de faire les opérations, ou en tout cas, ça ne doit pas être seulement ça. Ce qui pose vraiment problème aux élèves, c'est de comprendre les énoncés, de les interpréter, et surtout, comment on passe de cette compréhension à une procédure de résolution. Si on le dit avec les mots de Julot, les processus, ce n'est pas le processus d'opérationnalisation qui pose le plus de problèmes, c'est l'interprétation et la sélection des données et la structuration du problème. On a une tentation parce qu'on veut quand même que les élèves y réussissent. C'est un peu ça le contrat qu'il y a dans la classe. Donc la grosse tentation, ça serait d'essayer d'enlever tous les obstacles qu'il peut y avoir dans l'énoncé pour faciliter l'interprétation et la sélection des données et permettre à l'élève de passer un peu plus facilement à la structuration. En gros, ça veut dire par mon activité d'enseignant, je prends un peu en charge l'interprétation et la sélection parce que je donne à voir un peu plus pour passer directement aux autres processus. Mais là, Julot, il nous dit, oui, mais là, on a un risque. Enfin, quand on fait ça, on dénature un petit peu l'activité. Parce que si on veut que ça soit l'élève qui résolve le problème, ça veut dire qu'on veut que ce soit lui qui le représente. Mais pour représenter un problème, il faut mettre en œuvre les trois processus. Mais si c'est l'enseignant qui prend en charge un des processus, on n'a pas d'évolution possible, là. Donc, Julot, il emploie une formule que je trouve très parlante. Il dit, à trop simplifier, on risque de tuer le problème. Deuxième constat, quand en cycle 3, on commence à aborder le problème et que je demande à tous les enseignants de ramener des problèmes, ils me ramènent tous un texte écrit. Quand en cycle 1, je demande aux enseignants de me ramener des problèmes, ils me ramènent tous des jouets, du matériel, et ils racontent une histoire avec ça. Okay ? On se dit, peut-être y a un continuum, je ne sais pas, il doit se passer un truc sur le cycle 2, alors comment on passe de ça, des jouets manipulés, à l'énoncé écrit en cycle 3 ? Et en fait, il y a une rupture. Il y a une rupture, et elle arrive très très vite, la rupture, elle arrive en deuxième semaine de CP, à peu près. Évaluation nationale, exercice 14. Écoutez bien. Alors, c'est mis consigne pour l'enseignant. Lire deux fois l'énoncé. Allez. Il y a 5 lapins. Il y a 3 carottes. Combien de carottes manque-t-il pour que chaque lapin ait une carotte? Et ils ont un encart blanc et ils doivent résoudre le problème. La rupture, c'est là qu'elle se fait. En tout cas, il y a une rupture et elle interroge quand même cette rupture-là. Hein ? Parce que si on ne la prend pas en compte, on sait qu'on envoie un peu les élèves au casse-pied. Il ne faut pas s'étonner qu'ils ratent s'ils n'ont jamais été confrontés à cette forme-là. Troisième constat, c'est que rien n'empêcherait d'anticiper les choses et de lire des énoncés au cycle 1. Et au contraire, on a dans les programmes, il est bien dit qu'il faut permettre une acculturation à l'écrit, que l'enseignant doit donner accès à des textes écrits régulièrement aux élèves, entre parenthèses, textes littéraires, recettes de cuisine, documentaires, 3 petits points. C'est un peu plus explicite que ce qu'on avait avant, parce qu'avant, il fallait le lire dans les 3 petits points. Les 3 petits points, ça veut dire tout texte écrit qui va faire partie de l'univers familier de l'élève. Hein. Et les énoncés de problème, ils vont bien faire partie de cet univers familier, très, très, très rapidement. Donc, c'est possible, c'est marqué dans les textes, et pourtant, c'est très peu fait. Alors, quand on demande aux enseignants pourquoi ils ne le font pas, c'est à peu près toujours la même chose qu'ils disent. Oui, mais quand même, c'est un peu austère. Ouais. C'est un peu éloigné de l'univers familier des enfants. C'est même un peu abstrait. Puis si on fait ça, Erwan, tu sais bien, il va y avoir quelques élèves qui vont rentrer dedans, et puis certains qui vont rien y comprendre parce que c'est trop éloigné. Donc si on fait ça, on va encore creuser les écarts. Quatrième constat, et ce constat, je l'ai effectué dans mon travail préparatoire en mémoire quand je suis allé observer ce qui se passe avec la modalité traditionnelle, celle où l'enseignant manipule des objets en racontant le problème. On va aller voir des élèves de grande section. On est en milieu d'année, je crois que c'est en décembre, c'était en décembre 21, voilà, c'est ça. On est dans une petite classe rurale. On va voir la maîtresse avec les 5 élèves les plus en difficulté de la classe.
Dans une école, il y a un dortoir et il y a une classe. D'accord ? Dans le dortoir, il y a 10 enfants. Ils sont en train de dormir. Au bout d'un moment, il y a 3 enfants qui se réveillent et qui vont retourner dans la classe. D'accord ? Combien d'enfants seront encore dans le dortoir ?
Thank you.
c'est le tout début de la recherche. Hein. Et puis après, elle va les questionner les uns les autres pour leur demander la réponse. Il y a un vrai problème à résoudre, dans le sens où on ne voit pas la solution. C'est toujours très compliqué, ça, quand on manipule des jouets devant les enfants, de ne pas faire apparaître la solution. Hein. C'est-à-dire qu'elle manipule, mais à un moment donné, elle empêche la manipulation et elle empêche de voir. Donc il y a un vrai problème à résoudre, il y a un empêchement de manipuler, et ça va obliger les élèves à anticiper ce qui se passe. C'est bien ça qu'on cherche en résolution de problèmes. Essayer d'anticiper, et on pourra après vérifier que c'était bien la réponse. Et quelque chose d'extrêmement important dans la verbalisation, c'est aussi le silence. D'accepter de se taire. C'est pas très très long, hein. Je ne sais pas, ça doit durer 10 secondes, 10, 12 secondes. C'est incroyable comme ça peut paraître interminable pour des enseignants qui sont en train de le faire. Et à quel point très vite on a envie d'interroger, de lancer une verbalisation, de dire des choses. Non, non, il faut laisser. Parce qu'il se passe des choses super intéressantes pendant ces 10 secondes de silence. Je vais parler d'Alicia d'abord. Qu'est-ce qu'elle fait, Alicia ? Alicia, elle a les mains sous la table. Ok ? Et elle sort les mains. Et elle les pose sur la table, et voilà ce qu'elle pose sur la table. Ok ? Elle regarde. Elle recache sous la table. Ce qui peut poser un peu question sur le contrat. Est-ce qu'on a vraiment le droit d'utiliser ses doigts ou pas ? Et pourtant, le contrat dans cette classe est très clair. On a le droit d'utiliser, mais elle cache. Elle ressort. Elle regarde encore, et cette fois-ci, elle fait ça. Ouais, vous l'avez, hein ? Elle recache, et elle lève. Donc là, j'ai juste décrit. Maintenant, on va essayer d'analyser un petit peu ce qu'elle fait. D'abord, donc, elle sort ça sur la table. Et là, elle nous montre quelque chose d'hyper important. Hein, dans les signes, il y a des choses très, très nettes là. Elle nous montre qu'elle a parfaitement identifié les deux données, le 10 et le 3 qui est là. Et non seulement elle les a sélectionnées et interprétées, mais elle a été capable de les mettre ensemble dans une structuration hyper efficace en enlevant les 3 des 10. Ouais. Sauf qu'elle regarde ça et elle ne sait pas, ou alors elle n'est pas sûre d'elle, hein, parce qu'elle ne reconnaît pas ça. Okay. Le fait qu'elle fasse ça et qu'elle réfléchisse, on se dit, ah, quand même, ça doit faire écho, et ouais, il y a des rituels dans la classe pour apprendre ça et tout, mais elle ne l'a pas encore bien. Donc, bon, elle repasse par un comptage, et elle finit par lever le doigt après, et effectivement, elle donnera la bonne réponse au problème. Il y en a 7. OK ? Séléna, maintenant, de l'autre côté. Elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est plus sympa parce qu'elle montre tout sur la table. Elle commence par faire... Vous arrivez à voir... ça va ? Elle commence par lever 3 doigts. Et ensuite, elle fait ça. OK ? Elle referme tout. Elle rouvre 10 doigts. Elle en cache 3. Qu'elle transforme comme ça. OK ? Essayez d'analyser un petit peu ce qu'elle fait. Dès le début, qu'est-ce qu'elle nous montre ? Qu'elle a très très bien identifié la donnée 3. Okay ? Et qu'elle a aussi, puisqu'elle complète, très bien identifié aussi la donnée 10. Okay ? Elle nous montre aussi qu'elle a compris comment structurer les choses, mais elle ne les structure pas du tout de la même manière qu'Alicia. Alicia, elle a fait un peu une structuration de transformation négative. Hein, j'ai mon état initial et puis j'enlève 3. Elle, non. Elle pense le problème en deux parties. Okay ? Parce qu'elle sait qu'à la fin, il y aura 3 enfants dans la classe qui se sont levés et qu'il restera des gamins dans l'autre barquette, dans l'autre partie. Donc, on peut interpréter ça comme une structuration partie, partie, tout. J'ai une partie et je complète l'autre partie pour arriver à mon tout. Okay ? Sauf qu'une fois qu'elle fait ça, elle est super embêtée. Parce qu'on ne voit pas la réponse. C'est super bien structuré, mais l'opérationnalisation, là, n'est pas possible. Pas grave, elle nous montre qu'elle est quand même super flexible et qu'elle en a dans la caboche. Hein, parce qu'elle passe à une autre structuration. Elle rouvre tout et elle reprend la structuration la même que Alicia. où j'enlève les trois. Et puis, je ne sais pas trop pourquoi elle fait ça. Peut-être qu'elle est plus à l'aise. Enfin, en tout cas, elle aussi, elle dira clairement, c'est 7. Et elle n'a pas besoin de repasser par un comptage. Elle a l'air de connaître cette représentation analogique. Okay. Maintenant, un petit peu plus loin dans l'analyse de ces deux enfants. Ce qu'on voit, c'est que pour toutes les deux, si je reviens au processus de Julot, l'interprétation et la sélection des données n'a posé aucun problème, ni pour l'une ni pour l'autre. Et puis j'avais une caméra de l'autre côté qui me donnait à voir que de l'autre côté, c'était exactement pareil. Aucun problème d'interprétation et de sélection. On n'a aucun problème non plus de structuration du problème. Il y en a même une qui est capable de mener deux structurations différentes. Voilà. Elles savent comment mettre ces données ensemble. La seule chose qui a posé problème à ces deux enfants, c'est l'opérationnalisation. Mais ça questionne ça quand même. Parce que vous vous rappelez le premier constat. Dans une situation de problème, ce qui normalement fait obstacle, mais ce qui fait aussi le sel de l'activité, c'est la compréhension et l'interprétation des énoncés et comment on passe à une procédure de résolution. Ici, ça ne pose aucun problème. Il n'y a que l'opérationnalisation qui pose problème. Comment ça se fait ? Hypothèse 1, le problème est trop facile. On pourrait se dire ça. On est quand même sur une situation de référence. C'est tiré d'une situation de Dominique Valentin. C'est fait depuis des années. Si la situation était vraiment trop facile, je pense que ça ferait des années qu'on l'aurait mise en moyenne section. Voilà. Hein. Et non, on la laisse en grande section, donc ça colle. Ce n'est pas ce problème-là. Deuxième hypothèse, c'est quand même des cadors dans cette école et ils sont peut-être surentraînés à la résolution de problèmes. Alors c'est vrai qu'elle en pratique assez régulièrement. Je l'avais interviewée juste avant. On est quand même en début d'année, elle vient d'avoir ses élèves et elle me dit « j'ai pas encore eu le temps d'en faire beaucoup ». Je ne sais pas voilà, combien c'est beaucoup, mais voilà. Bon, ok. Troisième hypothèse, retour à Julot. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a tué le problème. Mais qu'est-ce qui a pu tuer le problème ? Parce que oui, ça, c'est les élèves les plus en difficulté de la classe. Mais alors, tous les autres groupes, je les ai quand même filmés. On s'est allé assez vite hein, en analyse. Hein. L'énoncé n'était pas fini, qu'il sortait ça et qu'il levait le doigt. En un seul geste, il y avait tout. L'interprétation, la sélection, la structuration, l'opérationnalisation par reconnaissance directe. Voilà, plié en 2 secondes. OK ? Tellement rapide, là j'avais parlé d'enchâssement des processus, on n'a même pas le temps de voir dans quel ordre ça vient, tout est en même temps, ça va super vite. Donc qu'est-ce qui peut avoir tué le problème ? Ce qui peut avoir tué le problème, c'est qu'avec cette modalité, on a énormément d'ajouts qui sont faits par rapport à ce qu'aurait été un énoncé écrit, et on a 2 types d'ajouts en fait qui sont possibles. On va avoir des ajouts situationnels, contextuels. Mais là, ce n'est pas ça qui est important. En fait, on sait que ces ajouts situationnels et contextuels, tout ce qui permet d'ancrer un peu le problème dans la vie réelle, tout ça, n'aident pas vraiment les élèves à résoudre les problèmes. Ce qui aide les élèves à résoudre les problèmes, ce sont tous les ajouts d'ordre conceptuel. Ces ajouts d'ordre conceptuel, c'est des ajouts qui permettent à l'enseignant de mettre en lumière les données du problème et de mettre en lumière aussi les relations qui lient ces données. Alors, est-ce qu'on a ça là ? Ben oui, déjà la donnée 10, ils l'ont vue. Elle est mise sous une représentation analogique 5-5. La donnée 3, elle n'est pas montrée. Ok, on a la donnée 10. Est-ce qu'on a d'autres choses qui sont montrées ? Ben oui, on a des relations qui sont données et des relations qui sont drôlement importantes pour la structuration. Déjà, on a une représentation spatiale qui est offerte du problème. Les enfants voient que il y a l'espace où il y a les, je le fais dans le même ordre, où il y a les 10 petits-enfants qui dorment, et qu'il y a un autre espace à côté. Et qu'à la fin, comme il y a ce geste qui accompagne, on sait bien qu'à la fin, il y aura des bonhommes là et des bonhommes là. Là, on est vraiment sur une représentation donnée aux élèves spatiale qui permet à Selena très vite de se dire, de structurer les choses comme ça. Il y aura 3, et les autres, ils sont là. OK ? On a un autre élément qui est très important. Donc ça, c'est sur les relations spatiales qu'on transmet, mais on transmet aussi des relations temporelles avec le geste qui accompagne. Et celui-là, ce geste-là, il est énormément porteur de sens. Il accompagne le moment où elle dit, il y en a trois qui se réveillent et qui vont dans la classe. Ce geste-là, il montre à Alicia que les 10 qui sont là, il faut que je les enlève. C'est ces éléments conceptuels-là qui font que l'interprétation, la sélection et la structuration, elle est énormément simplifiée pour les élèves. On l'aura quasiment systématiquement, ça, dès qu'on utilisera du matériel pour expliquer un énoncé. Parce que le matériel, il ne va pas être statique devant. S'il est statique, déjà, on va donner à voir peut-être des relations spatiales. Et si en plus, ce n'est pas statique, mais qu'il y a du mouvement associé, on va donner à voir du mouvement, de la chronologie ou des choses qui vont aider à la structuration. Sauf que cette même année, avec Julie, on commençait aussi à tester une modalité sans matériel. Et on se rendait compte qu'ils y arrivaient aussi très bien sans matériel. Sans matériel pour transmettre l'énoncé. Et puis, on ne risque pas grand-chose. Parce que si ça ne marche pas, on pourra toujours ressortir la boîte après. Hein ? Mais dans un premier temps, de peut-être pas donner ces indices conceptuels de répartition spatiale, d'organisation chronologique du problème. Mais à partir du moment où il n'y a pas de matériel, se pose la question de comment on va transmettre l'énoncé. Est-ce qu'on le raconte ? Ou est-ce qu'on le lit ? Est-ce que ça va changer quelque chose ? Ou pas ? Alors, j'avais bien conscience en faisant ça que j'allais sur des modalités qui n'étaient pas très, très, très traditionnelles. J'avais envie de voir un petit peu l'ampleur de ça, connaître un petit peu les pratiques ordinaires. Donc mes collègues RMC ont permis de faire diffuser un questionnaire sur toute l'Ille-et-Vilaine. Et bon, on n'a jamais beaucoup de réponses sur des questionnaires comme ça. J'ai eu quand même 39 réponses d'enseignants de grande section sur les modalités qu'ils utilisent. Alors, bon, sans surprise, en vert, c'est la modalité traditionnelle. 84% des enseignants disent qu'ils utilisent fréquemment cette modalité-là. Et 58% disent que c'est la modalité ou c'est parmi les modalités qu'ils utilisent le plus. D'accord ? Il y a deux modalités, la bleue et la rouge. Alors, je ne m'y suis pas du tout intéressé à ces deux-là. C'est les modalités où on n'utilise pas du matériel, mais où on a un support imagé pour transmettre le problème, soit de raconter avec un support imagé, soit de lire avec un support imagé. Je ne me suis pas penché là-dessus, mais je pense qu'il y a beaucoup de conclusions qui vont être assez similaires à celles de l'énoncé raconté avec du matériel. En gros, ça va dépendre des indices qui sont donnés sur cette représentation imagée. Et alors, les deux modalités que j'avais envie de tester, c'est les deux toutes petites, là, sur le côté. Donc, celle qui est assez basse, là, la bleue clair, enfin la bleue, c'est raconter un énoncé sans support matériel. Donc ça, il y a 16% des enseignants qui disent qu'ils le font fréquemment. Et puis, lire des énoncés sans aucun support matériel, là, c'est 10% des enseignants qui disent le faire fréquemment. Il y a dû avoir un enseignant sur les 39 qui a dit que c'était sa modalité préférée. C'est vraiment ça le cadre théorique. À partir de matériaux qu'on recueille dans la classe, on a plein de façons de l'analyser. Et quand on fait de la recherche ou de l'initiation à la recherche, ben, on va choisir nos outils, on va choisir les lunettes pour regarder d'une certaine manière. Donc, moi, le cadre assez général dans lequel je me suis inscrit, c'est celui de la TACD, de l'action conjointe en didactique, qui a été développée par Sansevi et toute son équipe sur Rennes. Ce que j'avais envie de scruter, moi, c'était l'interaction vraiment entre les élèves et les enseignants et comment, dans le cadre de cette action conjointe, l'enquête pouvait avancer et quelle était la place de chacun là-dedans. Donc, je me suis appuyé sur la classification de Vergnaud. Le milieu, c'est ce sur quoi l'élève peut s'appuyer pour résoudre le problème. C'est là-dessus que je joue. On ne lui donne pas le même matériau entre les mains. Quelquefois, ça va être un énoncé juste oral et quelquefois, l'énoncé écrit. Et puis, dans le milieu, j'en parlerai un peu après, il va y avoir du matériel qu'on va déposer sur les tables. Il va y avoir des cubes et de quoi dessiner. Donc ça, c'est quelque chose qui ne bougera pas, quelles que soient les séances testées. Je me suis intéressé au contrat didactique, c'est-à-dire le système, ce que l'élève pense que le professeur attend de lui dans une activité de ce type-là. Okay ? Et qu'est-ce que l'élève va se sentir autorisé à faire dans une activité de ce type-là ? Et vous verrez au fur et à mesure de la présentation qu'on pourra constater une évolution de ce contrat didactique. Alors, praxéologie, ça a été développé par Chevalard et repris en TACD. Je l'explique très brièvement, hein. Mais l'idée, ça a été de considérer. Une praxéologie, c'est un ensemble qui permet de lier pour chaque tâche de la vie des techniques possibles que l'on peut mobiliser pour effectuer cette tâche et qui réfléchit aussi à quel savoir il y a derrière ces techniques qui sont utilisées. Okay ? Et pour analyser les séances, moi, je me suis dit que chaque processus que l'élève devait mettre en œuvre, interpréter, sélectionner, structurer et opérationnaliser, que chacun de ces processus, j'allais les considérer comme une tâche. Donc j'ai cherché a priori tout ce que l'élève pouvait faire pour mettre en œuvre ces tâches et quel savoir il pouvait y avoir derrière. Okay ? Et d'analyser l'action des élèves de cette façon-là, bah, ça me permet d'interpréter le triplet des génèses, donc la mésogénèse, c'est-à-dire comment petit à petit toutes ces choses éparses vont faire en sorte qu'on va arriver à la solution. En gros, qu'est-ce qu'ils vont prendre comme technique pour mettre en œuvre les processus. Puis ça me permet aussi de regarder la chronogénèse, c'est-à-dire ces processus, tiens, dans quel ordre ils vont arriver et avec quelle vitesse ils vont être mis en œuvre. Et puis, et ça c'est peut-être la partie qui m'intéressait le plus, de voir la topogénèse, c'est-à-dire la responsabilité de l'enseignant et la responsabilité de l'élève dans la mise en œuvre de ces processus. On est toujours coincé dans ce dilemme-là quand on est dans une situation d'enseignement face à un élève qui n'y arrive pas. Et quelquefois, et on le fait tous, on trouve une solution assez simple, c'est l'effet topaze. L'effet topaze, c'est que l'élève n'y arrive pas. On sait qu'on est lié à l'élève par un contrat, qu'on ne peut pas lui donner la solution. C'est lui qui doit la trouver. Donc on ne va pas lui la donner. Mais alors on va lui la suggérer très, 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 très fortement. Mais on va la suggérer en la camouflant un petit peu. Hein. Mais bon, le camouflage va tromper personne. On est clairement en train de lui donner la solution. Alors ça s'appelle l'effet topaze parce que c'est tiré du film Topaze de Marcel Pagnol, où Topaze dicte la dictée et passe derrière un élève qui a écrit « Les moutons » et qui n'a pas mis d'air. Voilà, vous l'avez le passage. Donc, il ne peut pas lui donner la solution, donc il va camoufler ça derrière un acte pédagogique normal, c'est-à-dire qu'il va relire la dictée, sauf qu'il va fortement suggérer ce qui manque en disant « Les moutons ». Quatre questions de recherche. La première question, ça va être, est-ce que raconter, c'est tuer le problème, okay. Parce qu'on est d'accord, quand on raconte, on fait des signes, on fait des trucs, on est en interaction, on en dit toujours plein, les phrases sont interminables. Est-ce qu'on ne va pas en dire trop et dans tout ce qu'on va dire, est-ce qu'il n'y aura pas des choses qui vont tuer le problème? La deuxième question, c'est, puisqu'on enlève le matériel au début pour expliquer, sans doute que ça va être plus difficile. C'est pour ça d'ailleurs que les enseignants ne le font pas, et ça va être trop dur. Hein. Donc si ça va être plus difficile, il va falloir que le professeur aide, sans doute plus que dans ce qu'on a vu avant. Mais est-ce que le professeur va aider de la même manière quand l'énoncé est lu et quand l'énoncé est raconté? La troisième question de recherche, c'est si on n'utilise plus le matériel pour transmettre l'énoncé, est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser pour faire autre chose? Et par exemple, pour chercher. Et ce serait drôlement intéressant parce que c'est ça qui est mis dans les IO. Résolution de problème, il faut que l'élève cherche, on met à sa disposition des cubes, des machins. Ils ne le font jamais. Hein. On voit très rarement ça. Mais peut-être que là, vu que le matériel n'est plus utilisé au début, il pourrait peut-être servir à ça, ce serait pas mal. C'était un peu notre idée quand je vous dis que sur les tables, on a mis des cubes et des ardoises. Bon, est-ce que ça va servir à chercher? Et puis la quatrième question, c'est ma directrice de mémoire qui me l'a soufflé. Elle m'a dit, non, dans ton TER, là, la donnée de départ, c'était toujours 10. Ça serait peut-être pas mal de changer les choses et de voir ce qui se passe. On a filmé deux séances en novembre et décembre 22. Première séance, l'énoncé est raconté. On s'est mis d'accord sur des énoncés de problème. L'énoncé est raconté. Deuxième séance, l'énoncé est lu. On voulait que les séances soient très proches pour qu'il n'y ait pas un surentraînement entre les deux. On voulait aussi que ça soit les mêmes groupes d'élèves. Alors, j'ai filmé tous les groupes, mais au final, j'ai retenu que les élèves les plus en difficulté de la classe. Forcément, ce sera avec la même enseignante, le même matériel autres sur la table, hein, les cubes, les ardoises. Et on voulait deux problèmes qui soient vraiment comparables. Vous allez voir, ils sont d'une complexité tout à fait égale. Hein. Ensuite, à partir de ça, bah, transcript de séance. Et puis, bah, ce que vous voyez en rouge dans les transcripts élèves, ce sont justement toutes ces techniques qu'ils utilisent pour mettre en œuvre les processus. Ça peut être des choses qu'ils disent, ça peut être des choses qu'ils font avec leurs doigts, des choses qu'ils font avec les cubes, voilà. Et puis, je me suis attelé aussi à regarder du côté enseignant quelles aides l'enseignante mettait en œuvre. Et j'ai essayé de catégoriser ça, on va dire, avec un niveau de positionnement topogénétique de 1 à 5. Au niveau 1, l'enseignant ne fait pas grand-chose. Au niveau 1, c'est l'enseignant transmet l'énoncé. Si on n'a pas ce niveau 1, on ne peut pas faire grand-chose. Okay. Au niveau 2, l'enseignant se contente de distribuer la parole entre les élèves. Ça aide, mais ça n'apporte rien pour résoudre le problème. Au niveau 3, déjà, elle reformule les propos des élèves ou alors elle valide les propos des élèves. Elle n'apporte rien de nouveau, mais quand même, ça a une valeur, ça. Au niveau 4, là, elle commence carrément à intervenir un petit peu dans l'enquête. Elle pose des questions. Où elle fait une petite synthèse de là où on en est. Et puis au niveau 5, là, elle prend carrément la main en apportant un élément nouveau, en signalant une donnée qui a été oubliée, en proposant d'utiliser un matériel qui n'a pas été utilisé jusque-là. Et donc d'identifier les deux, là, la double identification, bah, ça m'a permis de voir donc, bah, comment avançait l'enquête, comment avançaient les processus, vous voyez, la mésogénèse, comment ça s'organisait dans le temps, la chronogénèse, et puis surtout la responsabilité de l'enseignante et des élèves dans la mise en œuvre de ces processus et la résolution du problème. Est-ce que raconter, c'est tuer ? En racontant un petit peu trop, ça pourrait risquer de tuer. Hein ? Mais si on s'en tient à une version proche de l'énoncé écrit, peut-être que ça ne va pas tuer. Ça a été un problème pour moi de comment je transmettais l'énoncé de problème à l'enseignante. C'est-à-dire parce que si je lui donne un énoncé écrit, elle va l'apprendre et elle va le dire un peu de la même manière. Si je lui le raconte à l'oral, bah déjà, j'influence carrément, hein, je montre une façon de raconter. Donc j'avais fait le choix de le raconter avec des jouets et quasiment sans rien dire. Elle voyait le problème et c'était à elle de le mettre en mots. Ce que je vais vous proposer de regarder maintenant, c'est le début des deux séances. Vous allez d'abord voir la transmission de l'énoncé raconté, et puis les premiers instants de recherche. Et puis après, vous allez voir l'énoncé lu et les premiers instants de recherche.
Alors, il y a un petit garçon qui s'appelle Arthur, et il est à l'école du bas, en CP, et donc il a le droit d'emmener des billes pour jouer pendant la récréation. D'accord ? Donc, Arthur, il emmène 5 billes à l'école. Et puis, pendant la récréation, il y a sa copine Lily, qui n'a pas de billes, qui lui demande si il peut lui en prêter. Alors, il lui dit d'accord. Donc, il va lui prêter 2 billes à Lily. D'accord ? Alors, d'après vous, combien il va rester de billes à Arthur ? Lucie a 5 feutres. Elle en jette 2 à la poubelle. Combien lui en reste-t-il ?
Comment ça se fait que ça n'a pas tué le problème ? Il y a énormément d'ajouts dans tout ce qu'elle fait. Il y a de l'intonation, le texte est énormément plus long. Je reviens aux choses qu'on peut ajouter. Il y a deux choses. Hein. Il y a les éléments d'ordre situationnel et contextuel, tout ce qui enrobe. Hein. Et il y en a beaucoup, hein, des trucs qui enrobent. Hein. Ça se passe à l'école d'en bas. Ça enrobe tellement bien qu'il y en a un qui dit « Ah oui, je le connais, lui !» Donc il y a énormément d'éléments contextuels qui sont ajoutés. Par contre, il n'y a aucun élément conceptuel. Il n'y a aucun élément qui donne particulièrement à voir les données du problème ou des choses qui pourraient relier ces données. Hein ? Et au contraire, même, ça complexifie beaucoup les choses parce que l'énoncé de base, hein, c'est Arthur a 5 billes, il en prête 2 à Lily, combien lui en reste-t-il ? Ça fait 16 mots. Là, l'énoncé fait 105 mots. Les données se retrouvent complètement noyées dans ce flot de l'oral. C'est très, très dur de les identifier. En plus, on a ces digressions qui arrivent. Normal, on est en langage d'interaction. Ah, bah oui, je le connais. Oh, qui casse. Voilà. Déjà, lui, il est parti à penser à son copain Arthur en bas, mais même pour les autres, ça a cassé le discours, ça a cassé le flow, ça a cassé l'attention. Hein. Et puis, on a un autre élément qui rend aussi les choses très compliquées avec cet énoncé, c'est la complexité du discours. Le nombre de mots grammaticaux qu'il y a là-dedans, c'est gigantesque. Alors, celui-là, je ne le compte pas, il amorce. Il y a un petit garçon qui s'appelle Arthur et il est à l'école du bas en CP et donc il a le droit d'emmener des billes pour jouer pendant la récréation, d'accord. Donc, et celui-là, je ne le compte pas, il revient après. Donc, Arthur, il emmène 5 billes à l'école. Et puis, pendant la récréation, il y a sa copine Lily qui... Enfin, tac, tac, tac. Un énoncé très, très, très long et avec énormément de mots grammaticaux. C'est un énoncé beaucoup plus complexe que la version d'origine. Et puis, vous savez, il y avait l'idée quand même, ah bah oui, mais avec si on va lire, on va s'éloigner de l'univers familier. Il y avait l'idée aussi qu'on allait peut-être plus enrôler les élèves dans un cadre un peu plus familier. Il n'y a rien là qui favorise l'enrôlement des élèves. Au contraire, ils sont même plus enrôlés avec l'énoncé écrit. Cette dimension affective, elle éloigne de la tâche. Et sans compter que l'objet de savoir, c'est la résolution de problèmes. Ce n'est pas de parler des copains qui sont à l'école d'en bas en CP. Et sauf que l'objet de savoir, dans la deuxième partie, il est là. Il est posé sur la table. Évidemment, ils ne savent pas le lire, ça ne fait peut-être pas encore vraiment sens pour eux. Mais la maîtresse le regarde et il se passe un phénomène qui est bien expliqué dans le guide, je crois, apprentissage du lexique à la maternelle. L'attention conjointe. Le fait qu'on regarde, on se penche ensemble sur l'objet de savoir. La question 2, c'était, si c'est plus dur, l'enseignant va devoir aider, et est-ce qu'il va aider de la même manière dans les deux séances? Alors vous allez me dire, avec l'énoncé lu, il n'a pas grand-chose à aider, ils ont résolu le problème en 10 secondes. Mais après, il va y avoir d'autres versions du problème qui vont être proposées à ces élèves-là, et ça va être un peu plus compliqué, et l'enseignante va effectivement devoir aider. Alors donc, j'ai scruté toutes les aides, là, en les catégorisant, de 1 à 5. En fait, on retrouve... Dans les deux séances, que l'énoncé soit lu ou que l'énoncé soit raconté, on retrouve exactement les mêmes façons d'aider les élèves et on les retrouve à une même proportion d'aide de niveau 5, niveau 4. C'est grosso modo exactement la même chose. C'est la même chose sauf à un cas particulier. Il y a une aide qu'on ne retrouve que quand l'énoncé est raconté. Si on avait un énoncé lu, on le lirait. Là, il n'y a pas d'énoncé lu, donc la maîtresse va re-raconter.
Arthur qui va à l'école en bas, il emmène 5 billes pour jouer en récréation, d'accord? Il en emmène 5 billes, d'accord? Et puis, il y a sa copine Lily, et Lily, elle n'a pas de billes. Donc elle demande à Arthur de lui en prêter. Donc il lui en prête 2 à Lily, d'accord? Combien est-ce qu'il va rester de billes à Arthur, alors? Valentin?
Il en donne 2 billes à Lily, et là 4 pour Arthur.
Donc toi tu penses qu'il y en a 5, il en donne 2 à Lily, donc il y en a 4 pour Arthur. Est-ce que vous êtes d'accord?
Non.
Élise, non?
Non.
Pourquoi?
Donc, l'aide fonctionne parfaitement bien par rapport aux obstacles qu'il y avait. On voit après dans le discours des élèves qu'ils parlent bien cette fois-ci des deux personnages, Arthur, Lily, qu'ils leur donnent des rôles différents dans ce qu'ils verbalisent, qu'ils ont très bien interprété la donnée 2. Valentin, il dit, il en donne 2 billes à Lily. Parfaitement interprété. Et Élise, elle, non seulement elle interprète bien, mais alors elle structure carrément les choses, parce que 5, il en donne à Lily 2. Il en reste 3. Mais si on regarde un peu finement ce qui est dit, le prénom Arthur, il est mentionné 4 fois. Le prénom Lily est mentionné 3 fois. La donnée 5, elle est mentionnée bien fort et elle est montrée sur les doigts. Elle est répétée 2 fois et elle est interprétée 2 fois comme étant les billes que Arthur emmène à l'école. Non seulement c'est très 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 explicite et en plus elle vérifie que l'information est bien passée. D'accord ? Et on a à peu près la même chose pour la donnée 2, en un petit peu moindre, hein, mais elle est prononcée bien distinctement. Et l'action prêtée, qui était ce qui manquait aussi pour structurer le problème, est répétée 2 fois. OK ? Donc, on voit bien que cette formulation, officiellement c'est une simple reformulation de l'énoncé, mais tout ce qui pose problème aux élèves est très 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 fortement suggéré à partir de cette reformulation. Tout ce qui leur manquait pour avancer est mis en lumière. Et ça, bah, ça rappelle le phénomène expliqué tout à l'heure, c'est l'effet topaz. Ça tient à la modalité de transmission de l'énoncé. Si on raconte quelque chose à quelqu'un et qu'il ne comprend pas, et qu'on lui re-raconte après, on ne va pas lui raconter de la même manière. On va tenir compte de son incompréhension pour adapter notre discours et lui essayer de lui transmettre tous les éléments qu'on pense qu'il n'a pas bien compris. C'est ça qu'elle fait. En fait, c'est assez fin, ça veut dire qu'elle les écoute bien. Elle a très bien compris ce qui leur manquait et elle leur donne. On le verra un petit peu plus tard, une relecture d'énoncé suffit amplement à reconfronter l'élève au problème et aux données du problème sans avoir besoin de faire ses ajouts et de laisser donc l'élève rechercher par lui-même ce qu'il faut dans l'énoncé pour arriver à la résolution. Troisième question. Bon, si on se dit qu'on n'utilise plus de matériel pour raconter le problème parce que ça donne trop d'indices d'emblée, on arrête. Si on fait ça, est-ce que le matériel va pouvoir prendre un autre rôle ? La maîtresse propose d'utiliser le matériel qui est au milieu de la table.
Alors, on va tous en même temps. Je fais 5 billes. Je donne 2 billes pour lui. Attends, Valentin, tu vas trouver sur moi. Je fais 5 billes. Là, est-ce que j'en ai fait 5 billes ? J'en ai fait 2. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse alors ? Il faut en faire 5. Comment je fais pour en faire 5 ? Oui, mais combien je dois en faire des roues ? Et là, j'en ai déjà fait 2. 3. D'accord. Donc, j'en fais 3 de plus. Donc là, j'en ai d'accord, j'ai les 5 billes d'Arthur. Et toi, Valentin, tu voulais que je fasse quoi ? Attends. Et pourquoi là c'est 2 et là c'est 3 ?
Alors, parce qu'Arthur il a 3.
Arthur il a 3. Et ça alors ?
Et je donne pour Lily.
C'est pour Lily. Il en donne 2 à Lily et il lui en reste 3. On aurait pu faire aussi avec les cubes. On imagine que ça c'est une bille. Bon, ben, j'en prends. Du coup j'en prends 5. D'accord. Et alors, comment je peux faire après ?
Après, je donne à
Lily. Alors, vas-y.
Oui. Et après, il
me reste
3. Les trois questions à se poser, c'est mi-manipulé, mais la verbalisation va avec. Qui c'est qui manipule ? Quand est-ce qu'on manipule ? Et surtout, pourquoi faire ? Qui est-ce qui manipule ? Est-ce que c'est d'emblée, comme en modalité traditionnelle, l'enseignant qui manipule, ou est-ce que comme là, c'est l'enseignant qui manipule avec les élèves pour essayer de retrouver la solution ? Et ce qui serait super bien, et qu'on va peut-être voir un peu apparaître par la suite, ça serait que ça soit les élèves qui manipulent par eux-mêmes. Hein. L'autre question, c'est quand est-ce qu'on manipule ? Est-ce qu'on le fait au tout début pour transmettre les données et tout mettre en lumière ? Ou est-ce qu'on le fait pendant la recherche ? Hein. Et puis surtout, bah, pourquoi faire ? Est-ce qu'on manipule pour lever tous les obstacles dès le début ? Ou est-ce qu'on manipule pour apprendre à surmonter les obstacles. Et là, ce n'est plus du tout le même geste d'enseignement. C'est l'enseignant qu'on aura envie d'être, quoi. Pas celui qui enlève les difficultés, mais celui qui aide à les surmonter. La dévolution, c'est le phénomène par lequel le professeur donne à l'élève la responsabilité d'apprendre ou de faire seul. Et ça marche dans les deux sens, hein, et que l'élève accepte de prendre cette responsabilité.
Alors, c'est 5 et quoi, ça ?
Cinq
crayons, d'accord. 5 feutres, d'accord. Ok. Pourquoi tu débarques ceux-là ? Ça fait 3.
C'est encore très guidé par l'enseignante, parce que c'est elle qui a dit vas-y dessine, et à l'autre vas-y prends les cubes et fais. C'est encore très guidé, mais c'est plus elle qui est en train de faire, c'est les élèves qui sont en train de faire. On voit le jeu entre les registres là, entre les différentes représentations, dès que Élise a les choses dessinées devant elle, qui ça permet une verbalisation et en même temps de remobiliser ce qu'elle avait fait sur les doigts avant. Enfin voilà, on voit que tout prend forme. On a peut-être des petits signes là qu'une dévolution est en marche, mais on voit les élèves là s'autorisent pas encore à le faire d'eux-mêmes. Il faut que ça soit la maîtresse qui dise de le faire. Alors, dernière question, c'est l'influence des valeurs numériques. Ils viennent de résoudre la première version du problème. Lucie a 5 feutres, elle en jette 2 à la poubelle, combien lui en reste-t-il ? Ils ont résolu sur les doigts. La maîtresse a proposé de le dessiner. Ça a été reverbalisé, refait le lien avec les doigts. La maîtresse a proposé après de prendre les cubes. Ça a été très bien verbalisé par Valentin. Première version, super bien réussie, et elle propose une deuxième version du problème. Lucie a 7 feutres, elle en jette 4 à la poubelle. Combien lui en reste-t-il ? Peut-être l'opérationnalisation va poser problème, parce que les nombres sont un peu plus grands. Voilà, ça va coincer un peu là-dessus, mais ça devrait pas trop mal se passer.
Lucie a 7 feutres, elle en jette 4 à la poubelle. Combien lui en reste-t-il ? Attends. Oui, est-ce que tu veux que je relise ?
Oui.
Alors, je reviens. D'accord ? Lucie a 7 feutres. Elle en jette 4 à la poubelle. Combien lui en reste-t-il ?
4 à la poubelle. Un seul.
Qu'est-ce qui se passe à la lecture du problème ? Valentin, lui, clairement, l'état initial, il en a rien à faire. 4 à la poubelle, 4, il y en a 1. Ok. Élise, elle, on ne l'entend pas tellement sur la vidéo, mais elle répète au premier énoncé, quand Julie lit, elle a 7 feutres, elle répète 7. Mais elle n'en tient pas compte du tout dans tout ce qu'elle fait après. Et elle aussi, sur les doigts, elle fait ça. Okay ? La seule qui prend en compte vraiment l'état initial, c'est Chloé, mais à la deuxième lecture, et qui, quand elle entend 7, fait ça. Mais après, elle est hyper embêtée parce que après avoir marqué 7 sur ses doigts, elle en baisse 1, qui rejoint la structuration d'avant. Il faut que j'enlève. Et là, il se passe un truc horrible pour elle. Déjà, il y a le 4 qui apparaît là. Et puis, il apparaît aussi d'une autre manière. C'est super embêtant, là. Elle est coincée, hein. Elle est dans une impasse complète et elle ne va pas s'en relever avant un petit bout de temps. Celui-là, il dit quoi, celui-là ? Celui-là, il va à la poubelle. Celui-là ? En fait, ceux-là, ils n'existent pas, ils ne font pas partie du problème. Mais il y a deux statuts sur les doigts. Là, la structuration, c'est la catastrophe. Quand même, sur ce petit bout-là, on voit le confort d'un énoncé écrit. Ça bloque ? Tu veux que je relise ? On relit. Okay. Et puis, l'évolution du contrat didactique, là, on commence à l'avoir. Valentin, il regarde beaucoup la maîtresse, mais il a compris que les trucs qu'il y a au milieu, ça doit bien servir à ça.
Qu'est-ce que tu as trouvé ? Un pajouté.
Moi, je pense quatre crayons. Il en reste un.
D'accord. Alors, attends, passe pas, Valentin. Voilà. Valentin, il a dessiné ça. Qu'est-ce que tu as dessiné, Valentin ?
Il y en a quatre ici. Il y en a un qui est resté ici. Donc, ça en a fait.
Élise, montre-nous comment tu as fait, toi. Tu as fait avec les doigts. Comment tu as fait ? Attends, laisse Valentin, regarde.
Sept.
Ça, c'est 7. Élise, voilà. Et combien elle en enlève, alors ?
4.
Comment on fait pour enlever 4 ? 7. Oui. 1, 2, 3, 4.
7.
D'accord. Valentin, il a pris 7 cubes. Combien on doit en enlever ?
4.
On doit en enlever 4, tu es d'accord, Valentin ?
Non,
je relis. Ouais, je relis. Lucie a 7 feutres. Donc 7. Il en a bien pris 5 et encore 2. Elle en jette 4 à la poubelle.
7, 1, 2,
1. Combien est-ce qu'il lui en reste ? Alors, combien on en enlève, Valentin ? 4. Donc il reste 3. Encore 2, voilà, Claudia. 7, voilà. Et maintenant, on peut en enlever.
4.
Voilà. Oui, enlève. Comment on fait pour les enlever ? On peut faire une croix. Et alors, combien il en reste ?
La première version avait pris 10 secondes. Celle-là, elle prend plus de 5 minutes pour arriver à la résolution. Après, 5 minutes pour un problème, ça peut paraître très long quand on le mène, mais c'est pas si long que ça non plus. Alors quand même, pourquoi ça a été aussi dur ? Je vais pas les prendre dans l'ordre, les trois processus. Je vais commencer par l'opérationnalisation. Ça, on pouvait s'en douter. Les nombres étaient plus grands, étaient un peu plus compliqués. On a eu le problème d'adéquation unique qui est arrivé. OK, ça, a priori, on pouvait s'y attendre. Ce problème de structuration, et quand on passe sur les doigts avec des nombres qui ne sont pas des nombres entiers de doigts, on va toujours avoir ce problème de certains doigts qui ne font pas partie du problème et de certains doigts qui font partie de la structuration et qui vont rendre les choses beaucoup plus complexes. Donc quand on a ces données-là, là ça rend vraiment indispensable le passage par d'autres représentations, les cubes et le dessin. Et on peut être complètement leurré quand on reste sur les données 5, hein, de ce point de vue-là, 5 ou 10. Et puis, ce qui a surtout vraiment posé problème, c'est la sélection et l'interprétation des données. Parce que là, on se rend compte que l'état initial, ils n'en tiennent pas super compte. Alors, pourquoi ? D'abord parce que ce qui fonde l'action, ce qui fonde le récit de ce problème, c'est la transformation négative, c'est le fait de jeter. L'histoire, elle tient grâce à ça. On en jette à la poubelle. C'est ça qu'on retient. L'état initial... c'est moins important. Elle a des feutres, elle en jette 4 à la poubelle, ça pourrait se tenir comme histoire déjà. Hein ? L'attention va dessus. Et puis en plus, dans la première version, ils n'ont jamais eu à se poser cette question-là. J'ai qu'à te prendre les 5, j'ai qu'à te prendre une main, c'est bon, ça me permet de faire un calcul, c'est souvent comme ça, voilà. Ça permet vraiment de répondre à ce contrat, je prends le 5 qui va de soi et je fais un calcul avec. Si on était resté sur une version A5, on ne se serait jamais rendu compte que cet état initial, que l'importance de l'état initial, il n'avait pas été pris en compte. C'est parce qu'on est passé à une version où l'état initial n'est ni 5 ni 10 que là, bah, ça oblige les élèves à passer à une représentation beaucoup plus fine et une compréhension de à quoi sert l'état initial pour résoudre le problème. Alors en conclusion de tout ça, déjà si on veut que ce soit l'élève qui résolve par lui-même, c'est-à-dire que ce soit lui qui mette en œuvre tous les processus, on a tout intérêt à ne pas lui donner trop au début, à donner juste ce qu'il faut. Et en ça, la modalité de transmission de l'énoncé avec du matériel, bah, on a vu qu'elle est pleine de pièges. Elle risque d'en donner trop et de tuer le problème. Le deuxième constat, c'est que si on décide d'enlever le matériel au moins dans un premier temps, la modalité racontée sans matériel, je ne lui vois aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt. Ça ne facilite pas l'enrôlement des élèves, ça complique la recherche. Et en plus, ça favorise ces effets topazes qui, même s'ils ne sont pas graves, on aimerait bien les éviter quand même. Par contre, la lecture, la transmission par la lecture d'un énoncé, elle permet d'éviter tous les problèmes qu'on a avec le raconté. Elle permet aussi de ne pas en dévoiler trop au début, parce que normalement, un énoncé de problème, c'est bien fait, hein. C'est pensé et c'est écrit d'une façon à dévoiler juste ce qu'il faut pour entrer dans la recherche. Et puis enfin, eh ben, cette importance de ne pas avoir que des données numériques en maternelle qui sont 5 ou 10 et qui peuvent fausser la représentation que nous faisons de la résolution du problème par les élèves. Merci.